Bonjour Raymond Richard au micro pour l'émission Terre solidaire et nous avons la chance en Eure-et-Loir de recevoir M. Florian de Jacquelot, chargé de mission du Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Et on va lui demander ce qu'est un chargé de mission. J'espère poser les bonnes questions pour que vous sachiez tout sur le CCFD et que vous soyez convaincu que lorsque vous donnez au CCFD, vous travaillez vraiment pour le développement. De Jacquelot, merci d'être à Radio Grand Ciel et alors je vous demande tout de suite, c'est quoi un chargé de mission?
Bonjour.
Au CCFD Terre solidaire.
Bonjour et merci de me recevoir ici. Donc un chargé de mission, c'est celui vraiment qui anime les partenariats qui existent entre notre structure, le CCFD Terre solidaire, et des partenaires. Dans mon cas, j'ai à peu près une vingtaine de partenaires sur 4 pays. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger et un petit peu le Burkina Faso.
En Mauritanie aussi ?
En Mauritanie aussi, tout à fait, ouais.
Parce que là, c'est vraiment le désert, quasiment.
Il y a quand même la vallée du fleuve où il y a...
Un peu d'agriculture,
il y a aussi quand même pas mal d'élevage. Et puis, il y a aussi des capitales. On travaille, par exemple, avec nos amis de Caritas Mauritanie sur un projet urbain dans la ville de Nouakchott, dans un des quartiers les plus précaires. Travailler avec les associations de quartiers, les groupements féminins, les associations de jeunes, les former, les structurer, les faire dialoguer avec le conseil municipal. Donc ça, c'est tout un travail assez important.
Un travail de formation, et là, qui est différent du monde agricole, dont on peut parler souvent lorsqu'on parle du comité contre la faim, puisque évidemment, c'est l'agriculture. Mais c'est aussi la formation, parce que les gens éduqués peuvent mieux utiliser les moyens à leur service, je pense.
Oui, c'est important de former la jeunesse, qu'elle puisse être en capacité de dialoguer avec leur commune, avec leurs élus, qu'elle puisse être force de proposition sur des politiques, qu'elles soient très locales. Par exemple, aménager un parc en périphérie de Nouakchott, comment ça s'organise, comment les jeunes peuvent s'emparer de ce projet pour en faire un lieu de vie. Et puis, à différents niveaux, c'est vrai que sur les enjeux agricoles, on est beaucoup plus sur du plaidoyer au niveau des politiques nationales. Donc c'est nos partenaires qui sont en dialogue avec les ministères, les autorités, pour faire passer leurs idées sur les politiques agricoles.
En vous écoutant, il y a quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, parce que au CCFD, nous avons fait cette évolution, comité contre la faim, puis pour le développement. Et puis aujourd'hui, vous dites, on travaille sur le plaidoyer. Alors je voudrais que vous nous rappeliez ce qu'est le plaidoyer et pourquoi c'est important et aussi... Je pense que ça correspond à un besoin. Alors je voudrais que vous expliquiez premièrement ce que c'est et pourquoi ça correspond à un besoin et que c'est important à la fois d'aider l'agriculteur à faire son puits ou à planter ses arbres ou à faire de l'agroforesterie, mais aussi participer à ce plaidoyer.
Tout à fait, ouais.
C'est très concis, mais en tout cas, je voudrais que vous nous expliquiez, puis qu'après, chacun se fasse son idée après tout.
Non, je partage ça avec vous. Donc pour nous, le plaidoyer, c'est essayer d'influencer les décideurs politiques. Et aujourd'hui, les décideurs politiques, c'est un député, c'est un ministre qui vont être en capacité de proposer, de voter des lois. Donc pour nous, c'est important que les agriculteurs, par rapport aux enjeux qu'eux-mêmes identifient, et qu'ils ont toute la capacité d'identifier les enjeux et les besoins pour leur avenir, soient en capacité de dialoguer et d'influencer leurs décideurs. Je pourrais vous prendre le cas du Mali. Depuis très longtemps, il y avait une loi sur le foncier agricole. Le Mali a décidé, il y a 4-5 ans, de faire évoluer cette loi, et les paysans s'en sont emparés pour proposer des articles, même un texte relativement complet sur les lois, sur comment devait être géré le foncier agricole au Mali, dans les différentes communautés. Ils utilisent, traditionnellement, il y a ce droit coutumier, donc un ensemble de droits de propriété et d'usage sur différentes parties.
Mais souvent pas codés par écrit et ils se font rouler par les gens qui veulent acheter des terres, non ?
Il y a la question des accaparements de terres qui était dedans, mais ces agriculteurs donc ont fait des démarches auprès des députés pour proposer un premier texte de loi. Ça a dû être fait il y a 3 ans. Bon, le travail se faisant, le texte a été beaucoup modifié. D'autres acteurs se sont venus peut-être moins favorables à avoir des protections pour les paysans sur la gestion du foncier. Ont un peu détricoté la loi qui avait été proposée, et tout récemment, ça date d'une semaine, et encore les paysans se sont remobilisés, et 80% des revendications qu'ils voulaient avoir sur cette loi foncière agricole, en particulier privilégiant l'agriculture familiale par rapport à l'agrobusiness, par rapport à des investisseurs privés voulant s'accaparer des terres ou voulant développer une forme d'agriculture qui ne nourrit pas forcément tout le monde, ont bataillé, ont influé, ont dialogué de nombreuses heures, de nombreuses soirées avec des députés pour les convaincre que c'était important pour le Mali, pour les paysans maliens, et ben de participer, et au final ils ont eu gain de cause sur voilà une bonne partie des recommandations.
Et la loi donc va être retricotée dans le sens
je crois
favorable
que
aux agriculteurs.
Voilà, ouais, la loi va être retricotée, va être je pense bientôt promue avec une part importante d'articles favorables aux agriculteurs et paysans du Mali. Donc ça c'est un exemple très concret d'action que le CCFD soutient à travers un de nos partenaires qui s'appelle la Convergence malienne contre les accaparements de terres, qui à la base, dans les années 2000-2010, a lutté contre le phénomène d'accaparement de terres qui touchait de plus en plus le Mali. Beaucoup de sociétés étrangères, de Chine, de Libye.
Oui, ce que j'allais dire, c'est la Chine, la Libye, les pays du Golfe qui achètent...
Qui voulaient acheter des terres, et ben eux se sont mobilisés, ont tenté de résister, ont accompagné des populations dont leur village avait été... pris en otage ou avaient été délocalisés, les ont accompagnés pour qu'ils respectent, que leurs droits soient respectés, ont tenté aussi des démarches juridiques pour les protéger. Donc c'est parti de cette résistance face à l'accaparement des terres, et chemin faisant, donc c'est une convergence, c'est une coalition de plusieurs acteurs, sont aussi venus pour proposer des choses et pour proposer tout ce travail que je vous ai expliqué sur la loi foncière agricole.
Alors ça me paraît intéressant, mais au point de dire, chers auditeurs, eh bien, peut-être que en France, ici ou là, vous pouvez prendre exemple sur ce qui se fait dans ces pays pour lutter contre les accaparements de terres du côté de la ferme des mille vaches, avec des investisseurs industriels qui se fichent pas mal de savoir comment vit l'agriculteur du coin.
Pour nourrir la planète, il n'y a pas 36 recettes. Pour récolter du blé, avant il faut semer, et pourtant les hectares se font toujours plus rares. Ils vont exproprier, brimer l'autoroutier. Tuez pas les paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en plaine, à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps.
Bon, alors ça c'était une parenthèse. Revenons à votre travail d'accompagnement. Comment vous choisissez les projets et comment vous avez connaissance des projets? Parce qu'il y a peut-être cet ancien partenariat.
C'est ça, j'imagine. Oui. Je choisis pas tous les projets. C'est quand on arrive, ben déjà il existe un ensemble de partenaires. J'avais une vingtaine de partenaires, dont la plupart sont restés partenaires parce que ma prédécesseuse.
Ils sont quelquefois partenaires, mais ils ne sont plus partenaires financiers. Ils sont partenaires de culturel, mais
oui, culturel ou d'alliance ou sans soutien financier. C'est vrai qu'on a encore des acteurs avec qui on a des bonnes relations, avec qui on échange régulièrement, mais qu'on ne finance plus. Après, le CCFD a toujours fait confiance en leurs partenaires, et pour moi, la bonne relation vient de cette confiance qu'on crée entre deux organisations, et donc c'est leur projet, c'est eux qui nous proposent des projets. On va les discuter ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi ils proposent ça, quels résultats ils cherchent à atteindre derrière, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. On va pouvoir rediscuter des manières, des méthodologies pour mettre en place telle activité, pour mettre en place une formation, pour faire ce plaidoyer, pour qu'ils le fassent le mieux, que nous aussi, ça réponde aussi à nos besoins, aux stratégies qu'on essaye d'avoir dans des pays ou dans des sous-régions, comme le Sahel. Et voilà.
Donc, il y a un partenariat qui amène à développer des projets, à voir comment on infléchit les projets, comment on infléchit une politique agricole, mais aussi donc tout un volet qui concerne comment soutenir des gens qui vont proposer des lois qui vont les protéger ou qui vont faire... Il y a d'autres exemples. Par exemple, on voit dans l'Agence française de développement qu'à un moment donné, il y a quand même eu une politique qui visait plutôt à favoriser... les grands systèmes.
Oui, alors, c'est vrai que certaines organisations, l'AFD peut en faire partie, après elle a aussi quand même des fonds qui vont vers les ONG et vers les organisations paysannes. Ça va être plutôt mes collègues du plaidoyer, donc on a une direction qui est vraiment chargée de faire ce plaidoyer, d'influencer les politiques, les décideurs français.
Les décideurs français dans l'Agence française de développement.
Dont l'Agence française de développement,
non,
dont
là,
les ministères.
Justement, parce que sur place, il y a quand même des gouvernements qui entendent peut-être plus facilement l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères que l'association du CCFD ou d'Afrique verte.
Oui, c'est vrai. Alors après, nos partenaires, certains peuvent faire la même chose avec leurs décideurs locaux, avec leur ministère des agricultures, avec l'Agence française de développement. Il y a un plaidoyer qui se fait dans les deux sens. Après, c'est aussi important d'être en alliance. Je peux par exemple parler de la NASAN, donc la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui a été décidée il y a au moins 4-5 ans par le G8.
Je ne trouvais pas que ce soit si génial.
Non, c'était pas une très bonne. Enfin, nous, on n'a pas jugé que c'était une très bonne initiative. Et donc, en alliance avec d'autres organisations, on a fait du terrain. Donc, j'ai une de mes collègues qui est partie en Côte d'Ivoire, qui a enquêté. D'ailleurs, elle était avec vos collègues de France Inter pour enquêter sur le terrain, voir quelle était la réalité de ces investissements, quels avaient été les effets sur les paysans, sur l'agriculture locale, forcément, et puis après un dialogue avec l'AFD en leur montrant quelles étaient les conséquences des financements qu'ils avaient accordés à une société privée. Et donc l'AFD maintenant est beaucoup plus prudente, fait beaucoup plus attention, essaye pour certains de faire plus attention par rapport aux investissements qu'elle peut faire dans les pays du Sud.
Oui, il me semble d'ailleurs qu'à la tête de l'AFD maintenant on a des gens un peu plus coopératifs. Dans votre travail de partenariat, il y a aussi, j'ai cru comprendre, une espèce de contrôle, en tout cas. Comment intervient ce contrôle? Parce que finalement, un contrôle dans un partenariat, ça paraît un peu contradictoire. Mais c'est vrai qu'on est financeur.
Voilà, l'une partie du travail du chargé de mission, enfin du chargé de mission, c'est de suivre les partenaires, et dedans, il y a le suivi financier. Le CCFD Terre Solidaire est un bailleur solidaire, donc on a cette dimension solidarité, on a cette dimension de confiance, mais comme tout bailleur, on a un contrat et on veut qu'il soit respecté, et donc on fait attention, on accompagne nos structures à voir quelles procédures y mettre en place pour dépenser l'argent, comment y dépenser l'argent. On a des rapports.
Comment c'est dépensé pour les bons projets, cet argent ne va pas aux éléphants blancs, par exemple.
Voilà, tout à fait. Oui, comment, et ça, c'est tout le travail de préparation avant que le projet soit financé. Ben, la lecture qu'on peut faire de la mise en place des activités nous permettra de dire que l'argent sera a priori bien dépensé. Et puis après, en contrôle. Donc, c'est vrai que moi, je me rends 4-5 fois par an en mission, et une partie de mon boulot, c'est d'aller voir la comptabilité des partenaires, voir qu'est-ce qui est fait, comment elle est faite, comment elle est rapportée, et voilà, c'est une partie du boulot qui est aussi intéressante. Hein. La bonne gestion financière contribue aussi à la bonne gestion des activités, à la bonne gestion d'une association.
Et aux bonnes relations entre les personnes.
Et aux bonnes relations entre les personnes, entre élus et salariés d'une organisation, entre les partenaires, ça c'est sûr.
À nos auditeurs qui sont peut-être donateurs au CCFD, en tout cas devenus donateurs si vous ne l'êtes pas, que vous voyez qu'il y a un contrôle et que l'argent que vous donnez n'est pas distribué n'importe comment, mais il est vraiment utilisé au service des populations pour leur progrès, et qu'il y a un contrôle pour que vous puissiez donner en confiance. Et comme le temps s'achève, eh bien, je vous dis bonne semaine à tous, au revoir. Et à vous, monsieur de Jacques-Lot, je vous dis merci d'être venu à Radio Grand Ciel nous parler de votre métier de chargé de mission au CCFD Terre Solidaire.
Merci à vous. Au revoir.